France Inter.
L'islam traverse un moment très particulier de son histoire. Notre époque est caractérisée par de grandes migrations. C'est probablement ainsi que les historiens la liront. Parmi les multiples conséquences de ces grandes migrations, il y a le fait que l'islam est devenu européen et américain. Il s'est très fortement installé ou réinstallé dans des régions qui n'étaient pas ses terres traditionnelles. Ce bouleversement augure de changements qui vont intervenir en son sein. Le philosophe Souleymane Bachir Ndiaye est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son livre avec Rémi Brague, La controverse, dialogue sur l'islam. Et comme chaque soir, et particulièrement le lundi soir où il faut se réveiller pour aborder cette semaine, eh bien, on va danser avec Jimi Hendrix.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. No reason to get excited.
Quels furent les principes d'éducation de vos parents, Souleymane Bachir Diagne ?
Écoutez, quand j'y réfléchis maintenant rétrospectivement, je me dis que mes parents m'ont enseigné le pluralisme, ce qui est la chose la plus importante qui me soit arrivée, je crois. Et ça m'a servi de viatique, parce que mes parents m'ont élevé dans la religion musulmane, c'était la chose la plus importante pour eux, bien entendu. Et ils m'ont élevé dans une tradition de compréhension de la religion musulmane comme une religion profondément pluraliste. Et avec l'amour du savoir, savoir dans tous les domaines, savoir à l'école, l'amour de l'école, l'amour de la poursuite de toutes les connaissances possibles et imaginables, et également dans un esprit de rationalisme. Voilà ce que je crois avoir retiré de l'enseignement que j'ai reçu de mes parents.
Musulman, vous étiez tout petit, de par les principes d'éducation de vos parents. Musulman, vous êtes aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Alors, je le suis de naissance, si je puis dire, évidemment, par l'éducation reçue de mes parents. Mais on n'est jamais vraiment musulman de naissance. À un moment donné, il faut qu'on se dise à soi-même les raisons pour lesquelles on l'est. Et donc, voilà, je me suis ensuite éduqué moi-même aussi dans cette religion que j'avais reçue de mes parents.
Aujourd'hui, vous êtes professeur, vous enseignez dans une université prestigieuse aux États-Unis, à New York. Vous avez longtemps enseigné dans votre propre pays, à l'université de Dakar au Sénégal. Vous avez fait des études en France. Que veut dire le mot musulman pour vous aujourd'hui, en cet automne 2019 ?
Alors, vous avez raison de rappeler d'abord tout le parcours qui a été le mien, c'est-à-dire que pendant très longtemps, être musulman n'était pas une question.
Et personne ne vous l'a posé.
Personne ne me l'a posé. Mes amis savaient que je ne mangeais pas de porc, que je ne buvais pas d'alcool. D'ailleurs, ça les arrangeait bien parce que dans les soirées où on allait et qui étaient arrosées, je pouvais, moi, les ramener tranquillement au dortoir ou à l'école normale quand c'était l'école normale. Mais ça n'était pas plus que cela une question. Pour vous donner un exemple, au lycée Louis-le-Grand, où j'étais interne, quand j'ai fait mes classes préparatoires, à la cantine, ceux qui servaient à la cantine savaient que je ne mangeais pas de porc. Ils avaient toujours un morceau d'autre chose pour moi chaque fois qu'il y avait du porc. Aujourd'hui, un tel arrangement, je crois, ferait pousser des cris. On dirait que la laïcité est en danger, etc. Bref, nous sommes maintenant à un moment de notre histoire où effectivement, ce que cela veut dire être musulman, c'est une question. Parce que, d'abord, c'est une question que l'on se pose soi-même, parce qu'avec tout le bruit et la fureur qui entourent ce nom d'islam aujourd'hui, on est amené à se dire, mais enfin, qu'est-ce qui arrive à cette religion? Qu'est-ce qui arrive à ma religion? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Pourquoi est-ce qu'elle peut être instrumentalisée de la manière dont elle est instrumentalisée? Et d'autre part, on est obligé d'une certaine manière aussi de subir le regard des autres, parce que quand on dit qu'on est musulman, la question qui vient, mais quel genre de musulman êtes-vous? Cela veut dire que c'est une, on est accueilli par ceux qui ne vous connaissent pas, par une certaine suspicion.
Accueilli ou désigné?
Désigné serait le mot le plus exact, effectivement, voilà.
Et quand s'est opéré ce basculement, selon vous, de changement de regard, de changement de la signification même du mot?
Alors, ça a commencé de se passer lorsque l'islam, qu'on appellera l'islam politique ou islamisme, a fait irruption dans le champ médiatique. Alors ça, c'est en plusieurs phases. Déjà, une première irruption, on peut dire 1979, la révolution iranienne, c'est là qu'on a commencé à entendre parler de l'islam comme d'un facteur géopolitique important dans notre monde. Mais je crois que c'est surtout avec la naissance d'Al-Qaïda, de Daesh, et du terrorisme aveugle, que le basculement a eu lieu. L'interrogation sur la signification de ces phénomènes, l'interrogation sur ce que ça allait devenir, quand est-ce que ça allait s'arrêter, ça ne s'arrête donc jamais, ça a toujours des... On passe d'un avatar à un autre. Je crois que c'est cette interrogation permanente qui fait que on peut dire que maintenant, nous vivons en plein une période où être musulman est devenu une question pour les musulmans eux-mêmes et pour, surtout pour une question qui est adressée de manière agressive, très souvent, aux musulmans.
Vous vivez, vous travaillez depuis maintenant longtemps aux États-Unis. Ressentez-vous la même situation dans le pays où vous travaillez ?
Alors, j'ai la chance de vivre dans... J'ai toujours vécu dans les universités. Au fond, j'ai toujours voyagé de campus en campus. Vous l'avez dit, j'ai vécu au Sénégal, j'ai vécu ici en France très longuement, je vis aujourd'hui aux États-Unis. Je vis surtout sur un triangle, pour l'essentiel, New York, Paris, Dakar, avec d'autres destinations bien entendu, mais ce sont mes destinations principales. Et c'est toujours dans des milieux universitaires. Les milieux universitaires sont des milieux en général plus ouverts,
Et très protégé. Socialement.
Ce n'est pas dans des milieux de cette nature que je ressentirai la question « qu'est-ce que c'est qu'être musulman ?» comme un mode de désignation agressif. Maintenant, il est évident que ce qui se passe autour de moi a changé. Je sais par exemple qu'il y a de temps en temps des incidents où une femme se fait arracher son voile, des incidents islamophobes ici ou là. Je n'ai jamais véritablement été directement concerné. Ma femme, si. Elle m'a parlé d'un incident sans gravité, c'était plutôt des mots du genre « rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites là ?» etc. Mes craintes étaient plus pour mes enfants. Mais bon, il n'y a aucune raison au fond que mes enfants soient particulièrement visés par ce genre de choses, parce qu'eux aussi ont vécu jusqu'ici autour de campus et d'universités.
Voilà. Et ils ont été éduqués selon les mêmes principes d'éducation que vous avez donné vos propres parents. Vos enfants sont aussi musulmans, ils se revendiquent en tant que musulmans.
Ils sont musulmans, ils le sont calmement, tranquillement, ils ont reçu de ma part pour l'essentiel, mais aussi d'autres enseignants, une éducation coranique. Ils savent lire le Coran, ils le lisent volontiers, chaque fois ils le recommencent d'un bout à l'autre, et donc je suis ravi qu'ils aient développé cette familiarité avec le Coran, dont mon père m'a toujours dit qu'elle était l'essentiel. Mon père m'a toujours dit « sois familier du Coran et ensuite pour le reste je te colle une paix royale ». Mon père ne s'est jamais inquiété de savoir si je priais, si je jeûnais, etc. L'idée étant qu'une fois que les bases sont là, au fond c'est la responsabilité de la personne de vivre au mieux sa religion de la manière la plus intelligente qui soit, c'est-à-dire dans l'esprit de rationalisme et de pluralisme dont je parlais. Et j'ai le sentiment aujourd'hui, quand je vois mes enfants sont adultes, mon fils est né à 30 ans, ma fille en a 22, et entre les deux j'ai des jumeaux de 28 ans. Et bien je vois que tous ont une manière assez savantes, ils ont été élevés dans l'islam lettré et savant dans lequel moi-même j'ai été élevé, et je suis heureux que la transmission se soit ainsi faite.
Vous êtes Souleymane Bachir Ndiaye, à la fois philosophe, mathématicien, vous avez écrit plusieurs livres à propos des courants de pensée dans l'histoire de l'islam. Vous êtes très attentif donc aux mots qui désignent des méthodes de pensée, des atmosphères de civilisation. Prenons, puisque vous en parlez dans votre nouveau livre, prenons ces deux mots qui sont brouillés dans nos cerveaux, où quelquefois on confond tout, le mot arabe et le mot musulman.
Oui, effectivement, nous vivons une période de grande confusion, et cette confusion est également une confusion linguistique. On ne sait pas trop comment appeler les choses. Rappelez-vous cette histoire du président Obama. Quand le président Obama était en campagne électorale et contre le sénateur McCain, c'est donc sa première élection, une femme a cru devoir dénoncer le président Obama comme crypto-musulman en disant à McCain « ben, cet homme est un arabe ». Alors, dans son esprit, elle voulait dire c'est un musulman, mais pour elle, arabe et musulman, c'est la même chose, et on se souvient tous de la réaction admirable du sénateur McCain qui a tout de suite arrêté cela en disant « mais non madame ». Et ça, c'est vraiment l'esprit du soldat en lui qui a parlé, l'homme d'honneur. Eh bien, on ne sait pas ce qu'il faut dire. Est-ce qu'il faut dire arabe, est-ce qu'il faut dire musulman ? Les Arabes sont un groupe, une ethnie, dirons-nous, à l'intérieur de l'islam. C'est vrai que l'islam est arabe au sens où le Coran, la révélation elle-même, est en arabe, mais il n'y a pas une langue de l'islam. Ce serait absurde de considérer qu'il y a une langue de l'islam. Il y a une langue du Coran qui est l'arabe. Il n'y a pas de langue de l'islam, puisque toutes les langues sont des langues de l'islam de ce point de vue-là. Et en termes strictement démographiques, les Arabes sont une minorité au sein de la grande masse du monde musulman. Le monde musulman est pour l'essentiel indonésien, pakistanais, indien même. Les musulmans sont une minorité en Inde, mais l'Inde est une population si nombreuse que même une minorité musulmane en Inde en fait le deuxième ou troisième grand pays d'islam. Et donc, voilà un point sur lequel il est important, effectivement, de bien choisir ses mots, de nommer de manière précise la réalité. C'est d'ailleurs le cas pour d'autres termes. Vous savez, on ne sait plus trop ce qu'il faut dire. On essaye de dire islamisme pour parler de l'islam politique, je l'ai fait tout à l'heure, et en gardant islam pour parler de la religion elle-même. Ce sont encore des termes dont on ne sait pas trop toujours ce qu'ils recouvrent. D'ailleurs, au XIXe siècle, on utilisait l'un pour l'autre. Quand Renan donne une conférence sur l'islamisme et la science, pour lui, islamisme, c'était la même chose que islam. Voilà. Mais il est quand même important de faire l'effort de distinguer les choses, même si les mots ne nous servent pas toujours de manière très précise. Vouloir séparer islam d'islamisme, et c'est un sujet d'ailleurs que Rémi Brague et moi discutons dans ce livre, c'est d'abord montrer qu'on a le souci du respect de la religion. On a le souci de dire « je fais la différence, je ne fais pas l'amalgame », comme on dit maintenant très souvent, « je ne fais pas l'amalgame entre la religion islamique, qui est celle de plus d'un milliard et demi de musulmans, et l'islamisme, qui est cette phase dans laquelle nous vivons, d'un usage politique de l'islam et d'une instrumentalisation de l'islam. »
Selon vous, Souleymane Bachir Ndiaye, faut-il distinguer l'islam comme religion, de l'islam comme civilisation et de l'islam comme population ?
Oui, là aussi, il faut faire ces distinctions-là, parce que quand on dit l'islam ou le monde de l'islam, on risque d'entrer dans une très grande confusion, parce que souvent, quand on discute, on se rend compte que son interlocuteur parlait de la religion, ou même parfois des textes de la religion, et d'autres fois des sociétés musulmanes dans leur ensemble. Effectivement, il faut faire cette distinction-là. En général, d'ailleurs, la distinction est faite lorsque on utilise la lettre minuscule I pour parler de la religion et I majuscule pour parler du monde de l'islam, l'ensemble des sociétés musulmanes. Bon, cela ne s'entend pas à l'oral, donc il vaut mieux toujours préciser, ajouter quelque chose au mot islam pour bien indiquer ce dont on parle.
Je vous propose d'écouter la voix de Léopold Louis Senghor, qui va parler de la religion islamique au Sénégal. Je rappelle qu'il était poète, écrivain, homme d'État français, premier président du Sénégal et premier académicien noir à rentrer à l'Académie française.
J'ai eu l'honneur de le connaître.
Et vous étiez évidemment un ami de Léopold Louis Senghor, même si vous étiez quand même extrêmement jeune à l'époque. En tout cas, écoutez les propos de Senghor, c'était le 5 juillet 1977.
L'islam a été introduit au Sénégal peut-être vers le 12e, 13e siècle. Curieusement, la colonisation française a développé l'islam parce que la colonisation française s'est introduite d'abord dans la partie nord islamisée du pays et les tirailleurs sénégalais emportaient l'islam dans leur sac. Donc, depuis les débuts de la colonisation française, les chefs religieux musulmans, d'une part les missionnaires, d'autre part, ont peu à peu évangélisé le centre et le sud du Sénégal, dont le peuple sérère, dont je suis en principe issu. Chez les sérères, ce sont souvent les hasards, des rencontres qui ont fait que tel frère a embrassé la religion chrétienne et tel autre frère la religion musulmane. Nous sommes tous d'accord au Sénégal pour penser que c'est le même Dieu que nous adorons sous les formes des diverses religions. Et c'est la raison pour laquelle très souvent des catholiques vont à la mosquée et des musulmans vont à l'église.
Alors on connaissait le grand esprit qui était Senghor, on connaissait son immense bienveillance, mais l'entendre parler ainsi avec cette tolérance, cette cohabitation, si j'ose dire, des deux religions naturelles, on se dit que les choses ont beaucoup changé en cet automne 2019.
Tout à fait. Alors justement, je suis heureux d'avoir entendu ici ce propos de Senghor parce qu'il nous rappelle un moment de très grand optimisme. Je voudrais revenir sur quelques-uns des points qu'il avance dans l'extrait que nous avons entendu. Premièrement, ce paradoxe qui fait que c'est la colonisation, au fond, qui a islamisé l'Ouest africain, le Sénégal en particulier. La colonisation, en mettant en place les infrastructures d'administration coloniale, a véritablement ouvert la voie, ouvert un boulevard à cette avancée de l'islam qui s'était toujours faite par les commerçants. Les commerçants ont joué un rôle très important, souvent des commerçants érudits qui, à la fois, allaient dans certains endroits pour enseigner, mais également pour installer des écoles coraniques et attirer à eux les populations locales. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, lorsqu'il parle, d'ailleurs, et il le fait en évoquant son propre groupe ethnique, les Sérères. C'est vrai que chez les Sérères, par exemple, dans son groupe ethnique, et c'est le cas dans sa famille, vous pouviez avoir des frères embrassant les deux religions de manière tout à fait naturel. Et donc, quand on parle de fraternité abrahamique, pour parler de la fraternité entre le christianisme et l'islam, c'était à entendre quasiment au sens biologique. Un exemple. Nous avons eu un cardinal Tchandoum, qui a été la figure emblématique du catholicisme sénégalais pendant très longtemps. Le cardinal Tchandoum avait une partie de sa famille, de ses sœurs, de ses frères, qui étaient des musulmans. Et comme il était plus riche qu'eux, évidemment, charité chrétienne faisait que chaque année, au moment du pèlerinage, il envoyait un de ses frères, une de ses sœurs, en pèlerinage à la Mecque. Voilà donc un prince de l'Église qui envoie ses frères et sœurs en pèlerinage à la Mecque. Mais ça, c'est un trait de l'islam au Sénégal et du christianisme et de la coexistence des religions. Je parlais tout à l'heure de pluralisme. Dernier aspect. Senghor a eu les responsabilités que vous avez rappelées. Donc, le président Léopold Sédar Senghor était président du Sénégal à partir de 1960 jusqu'à 1981, au moment de son départ volontaire du pouvoir. Et il a donné son esprit, au fond, à ce qui est la constitution sénégalaise. Aujourd'hui, même si elle a changé, sur ce plan-là, elle n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il a défini pour notre pays une laïcité qui n'est pas la laïcité française. Il ne s'agit pas, dans son esprit, il ne s'agissait pas de fourrer les religions dans les maisons en disant qu'elles ne devaient pas intervenir dans l'espace public. Au contraire, Senghor estimait que dans la construction de nations jeunes comme le Sénégal, les religions, toutes ensemble, en harmonie et en convergence, pouvaient jouer un rôle d'éducation. Et éducation, il l'entendait au sens large, de construction de la nation sénégalaise. Et il estimait que, de ce point de vue-là, un catholicisme dans l'esprit du père Théard de Chardin et un islam dans l'esprit de Mohamed Iqbal, ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu que Senghor avait été le premier à évoquer ce nom-là, parce que j'ai moi-même consacré quelques travaux à la pensée de ce philosophe indien moderniste, probablement le plus important de notre temps pour la reconstruction de la pensée religieuse de l'islam. Eh bien, il estimait que un islam compris dans l'esprit de Mohamed Iqbal était également nécessaire pour la construction du Sénégal.
Alors on parle sans nostalgie, mais on parle quand même avec regret d'un temps béni où il y avait une possibilité de dialogue interreligieux, d'une possibilité d'un temps où Abraham, le nom d'Abraham est inscrit dans le Coran. Tout cela a été rappelé. Aujourd'hui, les religions s'affrontent, les religieux non, parce que vous faites remarquer à l'intérieur de votre dernier ouvrage, Souleymane Bachir Diaye, que s'il y a des personnes qui essayent d'appeler au dialogue interreligieux, eh bien ce sont les autorités ecclésiastiques et plus particulièrement le pape en ce moment. Mais force est de constater que l'actualité, votre venue était prévue depuis extrêmement longtemps puisque vous habitez aux États-Unis. C'est très compliqué de vous avoir ici à la radio en direct et je vous remercie de votre présence ce soir. Mais l'actualité nous contraint à examiner l'utilisation ou la réalité de l'instrumentalisation, je ne sais pas si je choisis bien mes mots, Souleymane Bachir Diaye, de l'islam aujourd'hui. Comment avez-vous réagi à ce qui s'est passé à la préfecture de police jeudi dernier?
Permettez-moi d'abord de dire que c'est toujours avec un immense plaisir que je réponds à votre invitation. Deuxièmement, de dire que vous avez choisi vos mots avec une grande précision, ce dont je vous suis reconnaissant, parce qu'effectivement, il y a une sorte de respect dans l'attention que l'on porte aux mots que l'on choisit pour parler de réalités aussi complexes et également aussi douloureuses. Et je me suis rendu compte, en effet, en arrivant en France, je suis arrivé d'abord à Bruxelles et en France seulement hier, que notre livre, à Rémi Brague et à moi, paraissait finalement dans une actualité qui allait lui donner une certaine signification et qui allait faire que ce livre s'inscrit dans un espace qui a changé par rapport au moment où tranquillement nous devisions, Rémi Brague et moi-même, chez Michel Etchaninov pour constituer ce livre. C'est inévitable et malheureusement il faut en tenir compte et il faut parler de cela, essayer de comprendre. Ne jamais refuser de comprendre, et ça c'est le geste qui est tentant parfois de dire arrêtons de chercher à comprendre, cela veut dire que l'islam est une religion dont le cœur est absolument pétri de violence, cette religion est tout naturellement violente. On l'entend dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose dans l'essence de la religion, etc. Et donc le genre de conversation que nous avons eue là sur la religion est absolument important parce que c'est au moment où précisément le bruit et la fureur nous entourent qu'il faut soi-même ne pas en ajouter du bruit au bruit, en faisant en sorte que l'exigence de compréhension, l'exigence rationnelle soit toujours là, que l'on mette les choses en perspective. Vous avez parlé du pape François. C'est un pape admirable. Je suis moi un grand admirateur du pape François. Et d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que autant j'ai marqué mon accord profond avec les positions du pape François et en particulier sa volonté de dialogue et son ouverture. Autant mon interlocuteur Rémi Brague, qui pourtant lui il est catholique, n'aime pas bien le pape. J'ai eu le sentiment. Disons qu'il n'est pas d'accord avec les positions du pape. Je ne pense pas qu'il faille désespérer du dialogue des religions. C'est vrai qu'on ne fera jamais autant de bruit que les bombes. Une tragédie comme celle qui vient de se dérouler ici à Paris, à la préfecture de police, évidemment, ça va occuper les esprits, ça va faire infiniment plus de bruit que l'explication de la pensée de Mohamed Iqbal dont je parlais tout à l'heure et de l'importance que sa pensée a pour une reconstruction de la pensée religieuse de l'islam. Je cite ici son titre, qui ne s'est jamais manifesté de manière aussi évidente. La nécessité s'en manifeste aujourd'hui. Et il y a aussi tout un mouvement intellectuel dans le monde de l'islam qui s'engage dans cette voie-là. Il faut donc faire connaître ce mouvement, savoir que l'islam est en train d'être, d'être reconstruit intellectuellement, spirituellement. La pensée religieuse de l'islam est en train d'être reconstruite spirituellement, intellectuellement. Donner des noms d'auteurs et d'intellectuels du monde musulman importants. Et
alors, dites-les ces noms-là, parce qu'ils sont assez invisibles dans le champ médiatique.
Mais oui, je vous ai parlé de Mohamed Iqbal, évidemment, mais qui est mort en 1938. Je vous parlerai aujourd'hui de quelqu'un qui s'appelle Abdelrahman Taha, de Tunisie. Je vous parlerai de Mohamed Talbi, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Il est d'ailleurs intéressant de voir que ces auteurs ont été en dialogue beaucoup avec un auteur français qui a été très important pour la réflexion sur la religion, et c'est Henri Bergson. Voilà le genre de climat intellectuel, si vous voulez, dans lequel ces réflexions ont commencé de se mener. Ce n'est pas récent, c'est depuis le 19e siècle. Ça se continue, ça prend des formes différentes, évidemment, parce que les situations que nous vivons sont différentes. Mais encore une fois, autant il faut bien, avec lucidité, regarder les problèmes dans lesquels nous sommes, qui sont des problèmes de sécurité pour beaucoup, et comprendre également que ces phénomènes que nous vivons de terrorisme, malheureusement, sont là pour peut-être probablement encore une génération, avec des intensités variables. Autant il ne faut pas désespérer du dialogue des religions. L'idée de fraternité abrahamique est encore une idée qui est d'autant plus importante aujourd'hui. Et je crois que beaucoup s'engagent dans cette voie-là. Pour reparler de mon pays, le fait que l'islam au Sénégal soit un islam profondément soufi. Les Sénégalais vous diront à 95% qu'ils se reconnaissent dans une lecture soufie de l'islam. C'est une forme d'immunité, si vous voulez, contre un certain nombre de dérives. Mais une fois que l'on a dit ça, il faut dire qu'il faut être absolument, absolument vigilant et lucide. Parce que cet islam soufi est également un islam nigérian. Le nord nigéria était profondément soufi, et pourtant on a vu
Daesh
Boko Haram, voilà, Boko Haram sous la forme, donc l'avatar africain de Daesh s'implanter.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Souleymane Bachir Diagne pour notre plus grand bonheur, Jacques Brel.
Nous étions deux amis et Fanette m'aimait. La plage était déserte et dormait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront combien pour la Fanette j'ai chanté de chansons. Faut dire qu'elle était belle comme une perle d'eau. Faut dire qu'elle était belle et je ne suis pas beau. Faut dire qu'elle était brune tant la dune était blonde. Et tenant l'autre et l'une, moi, je tenais le monde. Faut dire que j'étais fou de croire à tout cela. Je le croyais à nous, je la croyais à moi. Faut dire qu'on ne nous apprend pas à se méfier de tout. Nous étions deux amis, Fanette m'aimait. La plage était déserte et mentait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront comment pour la Fanette s'arrêta la chanson. Faut dire qu'en sortant d'une vague mourante, je les vis s'en allant comme amants et amantes. Faut dire qu'ils ont ri quand ils m'ont vu pleurer. Faut dire qu'ils ont chanté quand je les ai maudits. Faut dire que c'est bien ce jour-là qu'ils ont nagé si loin, qu'ils ont nagé si bien qu'on ne les revit pas. Faut dire qu'on ne nous apprend pas. Parlons d'autre chose. Nous étions deux amis et Fanette l'aimait. Et la plage est déserte et pleure sous juillet. Et le soir, quelquefois, quand les vagues s'arrêtent, j'entends comme une voix. C'est la Fanette.
Souleymane Machernyaï, vous êtes philosophe, intellectuel, vous connaissez le Coran depuis le début de votre enfance, vous connaissez tous ses versets, vous connaissez la littéralité et les différentes traductions de ce Coran, l'instrumentalisation ou l'application, selon certains croyants, de ce même Coran. On dit beaucoup, et vous, dans ce livre nouveau, vous crevez, et vous avez raison de le faire, des abcès et sur des clichés qui sont terriblement véhiculés, y compris en France, sur l'islam. Notamment que l'islam serait une religion, mais aussi une politique. Qu'au sein des versets du Coran, il y aurait l'idée de la violence. Alors vous me direz, non, ce n'est pas vrai. Mais on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi certains adeptes qui appliquent ou qui disent qu'ils appliquent certains versets du Coran justifient la violence la plus extrême et se justifient d'être des terroristes au nom de Dieu.
Oui, ben voilà la grande contradiction, terroriste au nom de Dieu. Dès qu'on le dit, on se rend compte de la contradiction profonde, la contradiction dans les termes qu'il y a là. Il ne s'agit pas d'avoir une position systématiquement apologétique en disant « mais non, le Coran n'a jamais dit ça, le Coran ne dit ceci, dit cela ». Il s'agit de le lire, mais de le lire, vous l'avez rappelé, dans sa totalité. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de versets qui sont devenus des célébrités, qui sont les mêmes. Quand vous lisez les journaux, il y a toujours les mêmes versets. On vous dit, mais l'islam dit que... Alors, et on vous cite les différents versets. Et alors, maintenant, quand il y a d'autres versets qui sont des versets du pluralisme, des versets de la paix, etc., on vous dit, oui, mais bon, ils sont abrogés. Il est intéressant de voir qui dit que ces versets-là n'ont aucune importance. Deux camps. D'abord, ceux qui effectivement croient appliquer des versets religieux à leur pratique. Et d'ailleurs, ce mot d'application est un mot très bizarre. Qu'est-ce que signifie appliquer un texte religieux autrement que simplement vivre sa foi avec une spiritualité? Bon, toujours est-il que ces versets-là sont présents. Il y a des versets qui sont des versets parlant de la guerre, de la défense, etc. Il s'agit de les mettre en perspective, de les mettre en contexte, mais ça c'est un exercice d'érudition dont on n'a pas toujours la patience. Parce que quand on commence à dire « prenez tel verset », en réalité le contexte de ce verset était un contexte défensif, où le Coran dit, et ça c'est vrai, les polythéistes vous ont sorti de vos maisons, de vos mosquées, de vos synagogues et de vos églises. D'ailleurs c'est intéressant de voir que l'agression qui est dénoncée par le Coran et qui justifierait la guerre, ce sont les premiers versets de justification d'une guerre défensive, cette justification se fait au nom de la réponse à apporter à ceux qui vous ont chassé de vos maisons, de vos églises, de vos synagogues et de vos mosquées. Les lieux de culte des trois religions abrahamiques y sont évoqués ensemble. Mais c'est surtout ce que nous comprenons de manière globale du texte religieux qui est important. Si j'ai parlé tout à l'heure de l'esprit pluraliste dans lequel j'ai été, on m'a enseigné ma religion et on m'a enseigné le Coran, c'est parce que j'ai en vue des passages ou des versets ou des chapitres du Coran dont il me semble qu'ils en éclairent la totalité. C'est-à-dire que si j'ai tenu d'ailleurs dans ce livre à terminer mon propos par une postface dans laquelle je cite ce que j'appelle le verset du pluralisme, qui me semble le plus important. Et j'invite tout le monde à lire la totalité du Coran à partir de cela. Il y a une discipline dans le Coran qui est appelée le commentaire du Coran par le Coran lui-même. C'est-à-dire que ne pas lire des versets isolés, mais les renvoyer toujours les uns aux autres, les lire ensemble, tisser le texte ensemble. Voilà la lecture à laquelle il faut éduquer d'abord les musulmans eux-mêmes et refuser ce que nous, vous et moi, avons appelé instrumentalisation, parce qu'il faut voir également quel est le mécanisme d'instrumentalisation. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous sortez des versets, vous les isolez de leur contexte. Quand vous avez des versets qui sont des versets de tolérance, d'ouverture et d'acceptation de l'autre, vous dites oui, mais ils étaient des versets qui étaient là dans la situation où les musulmans étaient en infériorité numérique, militaire, etc. Mais dès qu'ils ont eu un peu de pouvoir, ils se sont empressés d'abroger ces versets. Mais qui les aurait abrogés, ces versets? Ça n'a pas de sens. Et donc, lire la totalité à partir de cet esprit-là, c'est ce qu'on devrait faire pour toutes les religions. Autre manière de mettre en perspective les choses et de comprendre ce que c'est qu'une instrumentalisation, c'est d'avoir le sens historique et le sens de toutes les religions. Et se rendre compte que les religions, de manière générale, historiquement, ont toujours pu être instrumentalisées. Prenons une parole terrible qui serait une parole de terroriste aujourd'hui. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Cette parole n'a pas été une parole islamique, elle a été prononcée par des gens qui pensaient à ce moment-là agir dans le plus grand intérêt du christianisme et ad maiorem Dei gloriam.
Y a-t-il pourtant une spécificité, Souleymane Bachir Ndiaye, dans l'islam qui ferait que cette dialectique entre la raison et la foi,
oui,
qui préside à toute méditation spirituelle, serait particulièrement difficile ou pas? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup répété sur l'islam, que l'islam demanderait d'être soumis à ces versets, de ne pas pouvoir continuer à avoir sa totale liberté. Est-ce que ça aussi, ce sont des clichés?
C'est un talking point, c'est un élément de langage qui est répété ad nauseam aujourd'hui, l'idée selon laquelle les musulmans, insistant sur le fait que le Coran est directement la parole de Dieu dictée à son prophète, est un texte établi sans aucun changement, on n'a pas le droit de l'interpréter, il n'a pas le droit de faire autre chose que de le répéter tel qu'il est. Alors on vous dira, en revanche, la Bible est née dans la traduction et son sens même, c'est d'être traduction, interprétation, etc. Il y a une première réponse empirique toute simple. Les bibliothèques dans le monde islamique sont peuplées de rayonnages de choses qui s'appellent les commentaires du Coran. Ça veut dire qu'en réalité, là, la réponse la plus immédiate, c'est simplement de dire, qu'est-ce que vous faites de l'existence d'une tradition intellectuelle et spirituelle de lecture et d'interprétation du Coran? Je vous donne un exemple très simple. Il y a un verset qui peut faire l'objet de deux lectures. Une lecture rationaliste, ce verset dit il y a des vérités incompréhensibles sauf pour Dieu, point, et ensuite continue, et les hommes de science disent que. Ou alors vous le lisez, il y a des choses incompréhensibles sauf pour Dieu et les hommes de science. Vous voyez que ça change du tout au tout. Et les deux lectures sont possibles par le texte lui-même. Vous pouvez mettre la ponctuation où vous voulez, parce qu'il n'y avait pas de ponctuation originellement dans le texte. Un auteur comme Averroès ne s'est pas privé d'avoir une lecture rationaliste de ce texte. Et donc vous avez des commentaires rationalistes du Coran, vous avez des commentaires soufis du Coran, vous avez des commentaires évidemment plus littéralistes. Nos bibliothèques sont peuplées de commentaires du Coran. Donc la, si la preuve du pudding c'est qu'on le mange, la réponse à la question de savoir si l'interprétation est possible en islam, c'est de produire les interprétations qui historiquement ont constitué la tradition intellectuelle et spirituelle de l'islam.
Vous allez m'en vouloir, Souleymane Bachir Ndiaye, mais tant pis. Je vais citer un verset du Coran. Vous pouvez avoir une, deux, trois, quatre femmes si vous pouvez les traiter toutes également avec équité, c'est-à-dire à la fois les aimer également et vous en occuper également. Si vous craignez de ne pas être juste, n'en prenez qu'une.
Eh bien, au contraire, je ne vais pas vous en vouloir, mais je vais me féliciter de ce que vous avez
lu. Le Coran autorise-t-il la polygamie et l'encourage-t-il ?
Alors, si je prends ce que vous avez lu donc de la discussion que j'ai avec Rémi Brague, il ne l'encourage pas, il tolère la polygamie, ce qui est tout à fait autre chose. Et nous parlions tout à l'heure de des lectures réformistes. Amir Ali, qui est un auteur indien, du début du siècle, qui a écrit un livre très important sur l'histoire de l'islam, a dit, précisément parce qu'il a regardé ce verset attentivement dans ce qu'il dit de la justice et du traitement équitable des femmes, en disant « mais le texte interdit la polygamie ». C'est-à-dire que la conclusion qu'il en tire, c'est qu'elle elle est interdite. Elle n'est pas interdite, c'est vrai, elle est autorisée, elle est tolérée. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que si j'examine véritablement mes actes et que je me demande si je peux traiter ainsi équitablement une autre femme que la mienne, celle qui remplit déjà mon existence, je suis obligé probablement de me répondre non. Voilà.
Ce qu'on peut dire, c'est que la controverse que vous menez avec Rémi Brague tombe à pic, qu'elle est extrêmement féconde, que par moment, elle n'est pas vraiment à fleur et mouchetée, mais elle peut être assez violente et frontale. Mais on en conclut, je ne sais pas si je me trompe, ça sera ma dernière question, Souleymane Bachir Ndiaye, on en conclut quand même à la fin de cette controverse qu'il y a une seule solution, c'est l'enseignement de l'histoire, je dis bien l'histoire, des religions, et ce, dès l'école primaire. Qu'en pensez-vous ?
Mais je serai tout à fait d'accord avec vous, pour beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui, l'enseignement, l'éducation est la seule vraie réponse. Il y a des réponses évidemment immédiates à apporter à un certain nombre de problèmes. Les problèmes de sécurité n'ont pas le temps long de l'éducation. Mais au bout du compte, l'éducation est la seule vraie bonne réponse à tout.
Eh bien, merci infiniment, Souleymane Bachir Ndiaye. Je rappelle que ce livre avec Rémi Brague s'intitule « La controverse », que son sous-titre c'est « Dialogue sur l'islam » et que ce livre vient d'être publié aux éditions Stock. Et je vous propose de nous quitter avec une musique que vous connaissez peut-être, Souleymane. C'est Tina Riwen. Écoutez. Et c'est avec ce Keltinawen de Tinaruwen que nous allons nous quitter ce soir. Mais je voudrais remercier Céline Guéribi qui était à la technique ce soir, Adrien Azéli, Elodie Royer, Louise Douillet ainsi que Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux et Lilian Allôme qui a réalisé comme chaque soir cette émission. Et puis surtout après le prochain journal d'information, ne manquez pas la série de Mishka Sayas qui a été aux États-Unis pour vous, pour rencontrer un homme qui a ressuscité à plusieurs reprises, un beau jeune homme de plus de 70 ans, un immense chanteur, je veux parler d'Iggy Pop, Iggy Pop en exclusivité sur France Inter, chez Mishka Sayas, après le prochain journal d'information.